l'acte clandestin produit peu à peu une imagerie, un décor, un peuplement, une idée, inavouable alors, que je nomme ici arrière-fond. Depuis, ce monde, je l'ai bien avoué. Dans cette émission Pierre Guyata, généralement je reçois des écrivains et avec vous j'ai l'impression de faire une exception car vous vous dites avant tout artiste plutôt qu'écrivain. C'est de l'art que vous faites quand vous écrivez des livres ?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je n'ai même jamais eu vraiment l'idée d'écrire, il faut voir du reste, il faut voir ce que veut dire le mot écrire du reste. D'où il vient, d'où il est même un petit peu. Il est même un petit peu archaïque maintenant, au fond. Avec les nouvelles technologies, il est devenu tout à fait archaïque. Et je l'ai toujours ressenti comme tel. Enfin, le mot écrire, pour faire de ce qu'on appelle de la littérature, enfin, des livres, poésie ou autre. Ça m'a toujours paru un mot faible, à la fois faible. Écrire, c'est un acte, c'est l'acte d'écrire avec une plume. Mais écrire quelque chose, c'est autre chose. Donc, c'est un problème qui a été déjà évoqué 100 fois dans le passé, dans un passé récent aussi, je crois. Et donc, comme le mot écrivain vient du mot écrire, procède du mot écrire, c'est un mot que je rejette. De toute façon, enfin, déjà à ce niveau-là, et puis étant donné ce que je fais, je l'ai progressivement évacué de mon. Je suis obligé de l'utiliser quelquefois dans les papiers administratifs, mais ça, tant pis, c'est une concession qui est faite à l'obligation identitaire, si je peux dire, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Mais je le rejette beaucoup. Enfin, je ne le refuse pas. Quand on me colle ce qualificatif, je ne suis pas sectaire sur ce plan-là.
Vous avez pourtant fait votre possible pour tenter d'y échapper, par exemple, oui. Avec la peinture.
Oui, mais ça, la peinture, ça précédait l'acte de peindre chez moi précédait l'acte d'écrire. Hein. C'est peut-être justement l'acte de peindre qui m'a fait éprouver l'acte d'écrire d'une façon peut-être différente quand je l'ai vers 14 ans, 15 ans, quand j'en ai fait vraiment une activité, sinon principale, du moins essentielle. Voilà. Peut-être que je venais au fond d'un acte qui est réputé plus artistique, à tort, mais qui est plus artistique que l'acte d'écrire.
Pourquoi arrêter la peinture ?
Comment ?
Pourquoi arrêter la peinture ?
Ben parce que sans doute, c'est assez un petit peu évoqué dans le texte, du reste, par une scène précise où j'ai rejeté au fond le motif de la peinture, qui était au fond à l'époque le paysage, les maisons, les intérieurs, enfin, tout ce qui peut se peindre, sauf effectivement le visage humain, enfin, ou même la silhouette. C'est tout autre chose. Au fond, je suis passé aux silhouettes et au visage humain, mais dans l'écriture, au fond. C'était ça qui me manquait. Je pouvais faire des portraits ou même un petit autoportrait comme ça quand j'avais 13 ou 14 ans, ce qui est très intéressant de faire un autoportrait de soi à cet âge, qui était correct, quoi, qui était même assez expressif. Mais enfin, Du reste que j'ai perdu, du reste, il ne m'en reste aucun.
Mmh. Aujourd'hui, faire son autoportrait, ça consiste à prendre un stylo ou un ordinateur ou à dicter un texte.
Peut-être à dicter un texte, oui. En tout cas, peut-être c'est une des raisons, c'est le fait de venir de la peinture, au fond. Et pourquoi j'étais venu à la peinture ? Parce que ça me plaisait, que ma mère peignait, elle ne peignait pas professionnellement, elle peignait par plaisir. Hein. Et donc, j'ai au fond appris à ses côtés à peindre sur le motif. C'était essentiellement des paysages. Et à un certain moment, le paysage m'est devenu un peu insuffisant, d'une certaine façon. Oui. C'était lié aussi à mon évolution intérieure. Mmh. Je commençais à me penser personnellement, et donc à penser à une sorte de portrait, d'une certaine façon. Et le portrait de tous ceux qui m'entouraient. Ou même de ceux que je rencontrais, que je croisais, même pour quelques secondes. Donc ça devenait difficile en peinture. Que là, il aurait fallu vraiment que j'apprenne vraiment à ce moment-là la peinture, que je revienne. Et j'avais pourtant une grande passion pour la peinture. L'acte de peindre était un acte vraiment très, très fort pour moi.
Vous n'avez pas envie de reprendre ?
Si, j'ai toujours du reste souvent. Quand je peins, j'ai toujours un petit carnet de croquis. Mais je m'en sers rarement. Je ne sais pas pourquoi. Mais je regarde beaucoup les choses en peintre. Ça se sent du reste dans ce que j'écris, je crois. Ça se voit, je crois.
Vous regardez, vous écoutez aussi, parce qu'il y a
beaucoup,
une autre tentation qui vous aurait permis d'échapper
une grosse tentation
à l'écriture et à beaucoup de choses.
Oui, c'est la musique, oui.
La musique.
La musique, oui. Ça, les sons, bien entendu. Mais c'est normal, j'étais une hyper-sensitivité, comme on disait à l'époque, je ne sais pas si ça se dit toujours, quand j'étais enfant, donc je ressentais tout très, très fortement, le son, la vie, l'image, tout. Donc le son est venu, comme ma mère était aussi assez musicienne, donc voilà, c'est beaucoup passé par ma mère, bien entendu. Mais ça, comment savoir ce qui est de moi, d'elle, de nous deux, d'une certaine façon, je ne sais pas.
Vous avez fait une histoire de la musique pour France Culture, d'ailleurs,
en
25
émissions. Une histoire de mon rapport à la musique, disons, de ma découverte de la musique.
Ouais. C'est devenu un coffret de CD
et
un livre.
Un livre, tout à fait, oui. Oui.
Un livre comme Tombeau pour 500 000 soldats, par lequel vous êtes fait connaître.
Oui.
C'est une œuvre musicale.
Je pense pas encore. Dans certaines parties, oui. Alors, c'est un livre que j'ai écrit sur deux ans à peu près, donc comme je vais assez vite, j'allais assez vite dans cette évolution qui est la nôtre, j'allais assez vite. Donc je pense qu'il y a des parties qui sont proches de la musique. C'est un livre où il y a toute une crise qui se produit, disons, et se produit à l'intérieur de ce livre. La crise de la représentation, des personnages, de l'intrigue, tout ça est progressivement éclaté. Et il y a aussi certainement cette sorte d'hésitation, d'indécision entre la peinture et la musique, et évidemment, évidemment l'écriture. La musique est sensible d'un certain morceau qui vont être après certains morceaux qui vont être développés dans Eden, où là vraiment la phrase est très, très intensément musicale, vraiment, tout en restant très picturale. Mais à un point que je n'aurais pas imaginé que quand je faisais de la peinture, bien entendu.
On peut faire de l'art avec des événements comme la guerre d'Algérie, par exemple.
Oh, moi je pense. Encore que ce livre, comme vous le savez, n'est pas du tout un livre sur l'Algérie. Je trouve que voilà, il y a quelques éléments. Disons, mon expérience algérienne m'a servi pour installer une scénographie possible. Enfin, je connaissais les limites alors d'une scénographie de guerre, de guerre ou de pays en guerre, de communautés en guerre. Mais, bien sûr, elle reste peut-être à faire. Il y a quelques éléments, je pense, dans la littérature proprement algérienne, en tout cas d'expression française, qui étaient déjà là avec par exemple Katia Biassine, par exemple, qui était déjà présent. Mais c'est un sujet tellement vaste, il y a eu des sagas romanesque, pas de très grande qualité, franchement. Il n'y a pas eu encore de vrai. Même au cinéma, il n'y a pas eu de choses encore, je trouve, de choses vraiment marquantes. Au fond, une œuvre comme Les Paravents qui procède est une grande œuvre d'imagination. C'est pas vraiment une œuvre épique.
Tout ce que vous écrivez, en tout cas vous, puisque malgré tout, vous écrivez des livres.
Oui.
Même si vous n'êtes pas écrivain,
oui,
est autobiographique, d'une certaine manière. Hein. Quelle que soit la nature des textes, oui, que ce soit des textes assez cruels, ceux que vous appelez les textes en langue,
oui,
comme Progéniture, par exemple, oui, que vous, oui, avez publié il y a, oui, une dizaine d'années, ou des textes normatifs,
oui,
que vous publiez maintenant,
oui.
Vous êtes venu à plusieurs reprises en parler à ce micro, Coma, oui, par exemple, au, oui, Mercure de France, ou, oui, Formation chez Gallimard, il y a 3 ans.
Oui.
Ou celui qui paraît
oui,
aujourd'hui.
Hein? Oui. Mais de toute façon, quand on fait de la fiction, on est automatiquement... c'est automatiquement l'autobiographie. Puisque si on fait de la fiction avec des figures crédibles, pour qu'elles soient crédibles, il faut qu'elles passent par soi. Il faut qu'on puisse les assumer. Les assumer, être un tel, une telle. Mm-hmm. Donc il y a déjà ce mouvement-là. C'est une chose qu'on découvre assez du reste, parce que j'ai toujours été contre l'autobiographie, l'utilisation de la vie privée. Encore, ça dépend quelle vie privée et quel niveau de vie privée. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées de la vie privée qui n'ont aucun intérêt. Il faut vraiment aller dans sa vie privée. Dans sa vie privée. Le mot est un peu ridicule. Vie privée, vie publique, qu'est-ce que ça veut dire?
Pour
moi, personnellement, je...
Vie secrète, dit Pascal Quignard.
Moi, je n'ai jamais fait la différence entre vie publique et vie privée. C'est un fantasme absolu, ça. Ça ne veut absolument rien dire. On a la vie qu'on a. Il y a l'homme, pour reprendre l'expression de saint Paul, il y a peut-être l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'humain intérieur et l'humain extérieur.
Ouais.
C'est du reste formidable comme définition. Mais enfin, en dehors de ça, qu'est-ce que c'est que vie privée, vie publique? C'est justement la même chose pour moi.
Par l'écriture, on passe de l'inavouable, pour reprendre ce mot,
oui,
de la phrase que j'ai citée en ouverture, oui, à l'avouable.
À l'avouable, oui. Mais c'est vrai qu'au début, quand on a 15 ans, qu'on écrit, qu'on commence à caresser ces figures, caresser par quelques mots, quelques verbes, quelques petites interjections, ces figures impensables quand même. Forcément, ça reste dans l'inavouable. Évidemment, si j'avais su que je pouvais... Je ne savais pas à l'époque que c'était tout à fait avouable, que ce n'était pas si inavouable que ça. Dans tous les sens du terme, à la fois avouable en art et pas terrible non plus au plan moral. Enfin, non. Pour moi, ça apparaissait comme le. Et je pense que c'est nécessaire qu'il y ait cette. Ça fait partie de la définition de l'artiste. Il faut connaître ça, il faut connaître cette espèce même d'illusion pour pouvoir écrire, je pense. C'est nécessaire. Il faut penser qu'on est éprouver, qu'on est sinon le premier, parce qu'on ne sait pas qu'on est, quand on a 15 ans, on ne sait pas qu'on est si on est le premier ou le dernier, ou si c'est déjà fait. On sent que c'est absolument contraire à tout ce que les parents, la parenté, les maîtres, tout ça enseignent, bien entendu. Et le maître absolu qui est évidemment à l'époque, qui est Dieu, bien entendu. C'est contraire. Enfin, on le ressent comme tel. Il faut penser dans la vie pour comprendre que. Ça n'est pas si terrible que ça, même au yeux de Dieu, si toutefois on continue à penser que Dieu maîtrise tout, ou que Dieu donc existe. Non. Mais voilà, c'est quand même inavouable, c'est quand même toujours le rêve, je pense, de tout artiste, de reculer les limites de l'inavouable. Moi, je suis encore dans cette recherche-là, si vous voulez. Mais c'est une recherche qui est très calculée, qui est très balisée. C'est pas une recherche lyrique comme ça. C'est une recherche très, très pensée, qui est pensée tout le temps, pendant toute la journée pratiquement, tout le temps. comment écrire la chose la plus inavouable, la plus subversive, donc. Mais subversive par rapport à quoi ? Voilà. Tout est là aussi.
Comment écrire à la première personne du singulier ?
Le singulier, oui. Oui. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire.
Oui.
Sans non, distance.
Ah non, mais trouver vraiment une scène, enfin une scène au sens général, une scénographie, des faits absolument. Complètement contraires à la morale publique, disons.
Là,
voilà.
La scénographie consiste à mettre l'arrière-fond.
Oui.
Sur le devant de la scène.
Sur le devant de la scène, voilà. Oui. Sur le devant, oui. Mais je n'ai pas tellement tardé à le faire, finalement. Parce qu'au fond, c'était déjà entamé déjà à cette époque-là, sous cette forme très clandestine, bien entendu. Mais au fond, 10 ans après, c'était sur la scène, avec Tombeau. Et d'une façon dont même je n'ai peut-être pas retrouvé peut-être la force, même, ou disons l'impétuosité.
L'arrière-fond, c'est proche ou lointain ?
L'arrière-fond. Pour moi ?
Oui.
Oh, il est quand même très proche. Tout proche, oui. Il est tout proche.
Dans la mesure où c'est le premier plan qui est lointain.
Dans la mesure où on envoie des éléments dans la rue tout le temps aussi. Vous savez, l'arrière-fond, c'est très vite organisé, très vite installé. Oui.
Là, c'est tout de même un jeune homme que vous n'êtes plus, dont il est question ce livre.
Oui, bien sûr. Hein? Oui.
Un étranger, pour vous.
Ce jeune homme-là, oui, c'est une question.
Avec le temps.
Je ne sais pas. Ben, peut-être que non, vu le. D'une certaine façon, un peu l'impétuosité de ce livre aussi, que j'ai écrit avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'énergie et beaucoup de bonheur, d'une certaine façon.
Vous l'avez écrit vraiment ?
Non, j'ai dicté, mais c'est pareil pour moi, il n'y a aucune différence.
Comment ça s'est passé ?
Une différence particulière.
Cette opération de dicter, parce que.
Là, j'ai demandé à une amie que j'aime beaucoup, qui est peintre, qui a donc un sens artistique extrêmement aigu. Et une certaine liberté et fraîcheur devant les choses, devant certains actes, comme cet acte de dictée, qui n'est pas n'importe quel acte.
Combien d'heures par jour ?
Ben, nous faisions 5 jours par semaine, et c'est 3h30, 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Et pendant 5 mois et demi, 6 mois à peu près.
Alors ça, c'est la phase orale, mais ensuite, il y a une phase écrite.
Oh non.
Bah, il faut bien retranscrire.
Ah non, mais ça s'était fait directement. C'était dicté, je dictais, c'était transcrit directement
vous n'avez plus rien à faire.
À l'ordinateur. Ah ben
vous n'avez pas corrigé. Ce qui sortait de...
Non, après, je faisais une sortie. Une fois la séance finie, mon ami parti, je faisais une sortie, je regardais la sortie, je corrigeais deux ou trois petites choses, des petites erreurs peut-être, d'un ou deux mois, bien entendu, beaucoup plus de mois, bien entendu, et puis c'est tout. Après, on a relu tout le manuscrit, je l'ai donné. Ah non, tout était... Non mais c'est dicté, si je peux dire, avec tout, hein.
Donc on peut dire que vous parlez comme un livre.
Oui, c'est ça. Enfin, non, je ne parle pas comme un livre, finalement, justement. Non, mais avec tous les points virgules, il y a tout, la ponctuation. C'est pas une opération, c'est une opération que je fais depuis assez longtemps pour ce genre de texte, ou pour des articles, par exemple. Quand j'ai eu à écrire des articles, soit qu'on me demandait, soit que j'avais envie d'écrire, à ce moment-là, je le dictais. Parce que c'est pas un langage qui m'est naturel, mais l'acte, mais pas naturel. L'acte d'écrire en langue m'est naturel. Voilà. L'acte d'écrire en langue normative, non, c'est pas la langue normative qui n'est pas naturelle, c'est l'acte de le faire en langue normative qui n'est pas un acte qui va de soi pour moi. C'est un acte dans lequel je me dissipe très vite, disons. Je suis très vite dissipé. Donc il faut quelqu'un qui me retienne, si vous voulez. Donc une dictée, c'est parfait. Mais j'ai dicté des articles, des textes, comme le texte... qui était repris dans Vivre, le texte que j'avais lu à Cerisy en 72. Là, je l'ai dicté.
Donc c'est un texte écrit avec la voix ?
Oui, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Parce que quand j'ai écrit en langue, c'est la voix de mes figures qui
voix de gorge. Parle.
Oui, une voix de gorge, de gorge, de bouche, enfin de...
Mais là, vous... Non. Ce sont les grands moments d'un chanteur, non ?
Vous voulez dire le...
C'est une voix lyrique.
Oui, assez lyrique, oui. Assez directe aussi, très directe, puisque c'est au présent là, la plupart du temps.
Première personne est présent. Oui,
chose qui désarçonne beaucoup les lecteurs, que ce soit au présent.
Pourquoi vous avez fait le choix du présent ?
Ah, mais je n'ai pas eu à le faire, car j'ai pratiquement toujours écrit au présent. Tombeau, c'est presque au présent tout le temps.
Oui.
Et ça a déjà frappé à l'époque. Parce que c'est le présent de la rédaction du texte, ou c'est le présent de la dictée. Quand je dis que je ne vais pas dire « il fit la chose » ou « il faisait la chose ». En tout cas, moi, j'ai voulu être au plus... Alors, c'est paradoxal, parce qu'on dit souvent de ces textes... Enfin, les textes en langue sont illisibles, ce qui est une sottise, bien entendu, mais peu importe. Mais, j'ai toujours voulu, moi, rompre la distance entre le lecteur et moi. Donc j'écris au présent pour que ça soit beaucoup plus écoutable, et c'est un peu impératif, peut-être trop impératif peut-être, pour des oreilles qui sont des yeux qui sont habitués à une distance un peu classique ou romantique, etc.
Ouais, mais là la distance, voilà. C'est pas seulement entre le lecteur et vous, c'est aussi entre le passé,
entre ce que j'étais et ce que je suis. C'est un peu ce que je suis qui oblige, qui va chercher le moi d'avant, de toute façon. Mais c'est toujours le même.
Le jeune homme, vous allez le chercher à un moment crucial de la vie.
Oui. Un des moments cruciaux, oui.
Oui, c'est certainement. Où on a le sentiment que pour réussir sa vie, il faut en faire quelque chose.
Ah oui, oui, oui. Oui. Mais ça, j'ai cette idée depuis longtemps quand même déjà. Mais là, ça prend une force évidemment particulière, parce que 15 ans, c'est déjà un âge important. Enfin, c'était un âge important, je ne sais pas comment c'est maintenant en général, mais c'était très important. Il fallait prendre des décisions quand même déjà. Des décisions scolaires, d'orientation, etc. Mais c'est une chose que j'ai toujours eue bien avant. Quand j'étais, même avant la pension, j'étais décidé, enfin... C'était pas une décision, bien entendu, prise après une longue réflexion. C'était une décision de tous mes membres, de tout ce que j'étais, de faire une chose de ma vie, ce qui est normal. Quand on a un très, très jeune corps, on a envie d'en faire quelque chose. Le corps est ce qu'il y a dedans, bien entendu. Enfin, ce qui l'anime. Alors forcément, vu que ce n'était pas spécifique à un artiste ou à un homme politique. Enfin, tous les enfants ont envie d'agir au maximum.
Et le jeune homme, alors, avec le temps, il a fait quelque chose de sa vie. Si on met de côté les livres, ne parlons pas des livres. On n'est pas dans une émission littéraire.
Oui. Bah oui, mais ils sont là quand même. Enfin, ils sont l'expression, en tout cas, de ce que je suis, malgré tout. De ce que je suis et de ce que, au fond, je m'attendais pas forcément à être. Hein. Car à 15 ans, évidemment, je voulais faire quelque chose, mais j'étais très incertain quand même aussi. Mais peut-être pas tant que ça, au fond, voilà, c'est ça. C'est aussi, ces textes sont faits aussi pour celui-là, d'une certaine façon aussi, sont écrits, mais on écrit toujours pour ça aussi, enfin on écrit, on fait de l'art pour ça, pour se restructurer, si vous voulez. Parce que l'enfance, ça va encore, mais l'adolescence, on a évidemment un souvenir une mémoire de son adolescence, on a une mémoire d'un moi extrêmement fragile, extrêmement, une mémoire d'un inachèvement perpétuel, si vous voulez. Or, c'est faux. Bien entendu, c'est faux. Et ce texte-là, et les autres aussi, ont servi à restructurer ce moi de cette époque si dure. C'est nécessaire. On s'aperçoit que finalement, à la réflexion, on n'était pas si incertain que ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on est consciemment incertain, mais il y a quelque chose d'autre qui travaille en soi et pour soi. Et c'est cette chose-là que j'ai essayé de retrouver, si vous voulez. Cette espèce de structure presque extérieure à soi.
Avec le recul, alors, Pierre Guyotat, vous pensez que Tous ces livres que vous avez écrits, ce sont des livres justes. Ce sont juste les livres que vous vouliez écrire.
Ah, juste les livres, je ne sais pas, non. Mais ce sont des livres, je pense, justes, oui. Parce que, mais bon, qu'est-ce que ça, à quoi bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est... J'aurais très bien pu faire autre chose. Écrire autre chose. Écrire, normalement, écrire, oui. Des sagas, des choses comme ça. Je ne suis pas... Je ne suis pas contre les personnages, contre les figures, etc. Contrairement à ce qu'on dit. Moi, simplement, je les appelle figures. Je les nomme figures. Personnage me paraît un peu prétentieux, vous voyez. Mon héros. Je ne peux pas dire mon héros ou mon héroïne. C'est un peu difficile, vous voyez. Quand il s'agit de putain, je ne peux pas dire héros, héroïne. C'est très simple. Mais c'est vrai que j'aime la fiction beaucoup. J'aime beaucoup la fiction. Contrairement à ce qu'on peut croire, je ne suis pas du tout... Je n'ai jamais trempé dans ce fantasme de la non, enfin des non-figures, de la non-représentation. J'ai bien trempé, j'ai jamais été là-dedans. Je pensais qu'il fallait faire une fiction nouvelle, vraiment. Plus proche de l'épopée, plus, par exemple, mais je n'ai jamais refusé du tout ça. Tout en sachant ce que ça avait aussi d'illusoire, bien entendu.
Sur quoi s'appuyer pour écrire un livre juste ?
Moi, je pense qu'il faut... Enfin, écoutez, je crois que je peux vraiment le dire, parce que ça paraît un peu prétentieux, un peu doctoral de dire ça, mais un peu comme ça, un peu récapitulatif. Mais c'est vrai que je pense du reste qu'on est, on est vraiment... Il faut vraiment agir ce qu'on a de plus inavouable, justement, je pense. Ce qui vous est le plus spécifique. Ou pas rechercher à faire l'universel quand on a 15 ans, ou 30, ou 40, ou 50, ou même 70. L'universel, comme on le sait, vient vraiment du particulier. Mmh. Et du particulier le plus particulier. C'est du reste C'est du reste un petit peu la crise qui est décrite dans Coma, du reste, parce que comment accepter d'être vraiment particulier ? C'est très difficile. Contrairement à ce qu'on croit... On veut être les autres aussi. On veut pas. Et c'était vraiment dramatique pour moi, la découverte de cet inconnu qui est, oui, que c'était que ce que je faisais n'était pas programmé, qu'il fallait que j'avance tout seul pour que à ce moment-là je puisse, voilà. Mais je n'avais rien à droite ni à gauche, rien devant, derrière, oui. Mais c'est ça le problème, d'accepter ce que vous écrivez, tout simplement.
Ouais.
C'est extrêmement difficile. Au moins pour les textes en langue, car la langue étant bouleversée aussi, vous êtes extrêmement seul. Dans un texte comme celui-là, c'est évidemment le drame est moindre. Il y a même assez peu de drame.
Vous êtes seul et il y a, vous l'avez écrit, un rapport entre l'écriture et la masturbation.
Oui, mais ça j'ai aussi beaucoup fait ce texte aussi, écrit ce texte aussi, avec le bonheur que je vous indiquais, aussi pour, non pas pour en finir, parce que de toute façon les mauvaises choses sont transmises, et sont transmises ad vitam aeternam, donc ça n'a aucune importance, mais j'ai voulu même à moi-même me... Essayer de retrouver exactement ce qui se passait, ce qui s'était passé. Car c'est une pratique qui s'est arrêtée, encore une fois. Mais évidemment, dès que vous l'avouez pour un temps, oui, c'est comme en politique. Vous avez eu un engagement dans votre adolescence, dans votre jeunesse, il vous reste toute la vie. Là, je suis toujours en train de... Voilà. Enfin, de faire l'acte que je raconte là-dedans.
Ouais.
Alors qu'il a cessé depuis très longtemps.
Un genre littéraire que vous appelez la branlée avec texte.
Oui, mais j'en ai parlé déjà bien avant. Et je ne sais pas utiliser ce mot-là parce qu'il est beaucoup plus, joli, beaucoup plus expressif. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Et puis, comment voulez-vous quand vous avez 15 ans, 14-15 ans, parce que j'ai commencé quand même à 15 ans, même avant. Comment voulez-vous écrire des choses qui, pour vous alors, défient l'imagination, défient la morale, la morale la plus, la plus publique ou la plus privée aussi. Comment voulez-vous faire, comment voulez-vous faire par le seul don littéraire? Il faut quand même un, enfin, il faut un excitant. C'est soit la drogue, soit je ne sais quoi. Voilà. C'est, et c'est pendant la montée du désir que la chose se fait, que le texte se fait. Pas du tout après. Mmh. Après, au contraire, c'est la chute dans le, dans un état dépressif. Je peux même dire que les premiers états dépressifs que j'ai pu connaître, c'est ces moments-là. Et ils ont commencé tôt dans, dans mon existence. Donc, je pense, oui, c'est vraiment un, c'est une chose que j'ai un peu redécouverte, là, justement. Donc, c'est pas du tout une activité que je, maintenant, je suis... Maintenant, je fonctionne tout seul, si je peux dire. Je n'ai pas besoin de ce genre de choses depuis très longtemps. Oui, on n'écrit pas un texte comme Tombeau avec ça. C'est, pas, c'est évident. C'est une... Là, c'est pas... C'est une... C'est une légende, tout ça, mais peu importe.
L'inavouable, ça tourne nécessairement autour du sexe?
Oui, oui, c'est le sexe, mais ça aurait pu être tout à fait autre chose. Mais, je, mais comme le sexe met en cause, met en, en marche le corps, et que c'est le corps tout de même qui... c'est l'image du corps qui crée tout de même le, la subversion, plus que les idées, de la même façon. Si vous voulez. Donc il faut absolument... voilà, c'est, ben, c'est le sexe. Le sexe étant l'état, l'état culminant du corps. Mmh. Vous ne pouvez pas faire ça avec, avec un corps sportif, avec le sport. Le soir, la perche, c'est, pas, c'est très beau, mais ce n'est pas, c'est pas suffisant. Pour, d'abord, c'est, ça dure quelques secondes. Tandis que le désir dure longtemps. C'est un acte fusionnel aussi. Donc c'est parfait pour... Le, c'est parfait pour comprendre, pour rendre ce qu'est effectivement le, enfin, le mystère humain, bien entendu. Beaucoup plus que le marathon le, ou sur la perche.
L'arrière-fond n'est pas le sexe. Car dès l'été 1955, où se situe l'histoire de ce nouveau livre, Pierre Guyotat, le sexe, c'est déjà fini.
C'est peut-être pas fini, mais c'est, disons, c'est ce qui attire les, c'est ce qui attire les corps dans ce, dans, dans ces lieux de la, je dis pas de la domination, parce que c'est pas tout, c'est pas vraiment, ni vraiment du sadisme ou du masochisme, c'est quelque chose de particulier que je n'arrive pas vraiment, du reste encore, à définir. Ça, cet état dont d'esclavage, pas vraiment sexuel, l'esclavage, l'esclavage proprement dit, vraiment. C'est-à-dire qu'on le corps, c'est-à-dire qu'on appartient à quelques autres, pas à une seule personne, à quelques autres. On ne s'appartient plus. Si tant est qu'on... Donc ça a plus à voir, cet arrière-fond a plus à voir avec une, au fond, avec une dépossession de soi-même, peut-être. Donc c'est assez proche d'une, d'un certain mysticisme, finalement. Mmh. Peut-être, d'une certaine façon. Sauf que là, j'utilise des figures. Les figures de la sexualité, bien entendu. Et d'une sexualité, à l'époque, assez double, déjà. Hein? Mais double. Contrairement, c'est à ce qu'on pourrait imaginer, double. Car le, tout de même, un des grands sujets de ce livre, c'est tout de même le sexe féminin, le sexe femelle, enfin, le sexe de la femme. Je crois. Hmm. Même du début jusqu'à la fin.
Le sexe de la femme, c'est l'ailleurs, c'est l'ailleurs.
C'est l'ailleurs, oui. C'est la, la chose. C'est la, oui. C'est le. Là aussi, je suis pas le, pas le premier à le. Mais je le fais à ma manière, bien entendu, qui est particulière. Je ne cherche pas dans ce livre à me donner des, une, enfin, rétrospectivement, une sexualité extraordinaire, oui. Mais c'est vrai que c'était vraiment un tourment, mais comme toutes les choses sont à cette époque, un tourment relatif quand même. Hein, il y a tout le reste qui occupe le corps, qui... Mais enfin, c'est tout de même très obsessionnel, tout de même, pour tout le monde. Et pour toute la vie, ce lieu-là. Ça n'a rien de... L'origine du monde, quand même, c'est pas rien.
Ouais, c'est l'origine du monde, mais c'est par l'origine du monde qu'on touche l'arrière-fond.
Ah, peut-être. Il y a peut-être un, il y a peut-être un rapport. C'est vrai, oui. Mais alors, est-ce au-devant de... au devant de cette fente, si je peux dire, ou derrière, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça, bien sûr, ça a à voir, bien entendu. Tout à fait. On voit, du reste, dans ce livre, il y a un va-et-vient, je pense, entre la représentation imaginée, parce que je ne le connais pas encore, du sexe féminin, et la représentation un petit peu plus nette, mais assez floue encore, de l'arrière-fond. C'est-à-dire du bordel. Donc il y a quand même une liaison entre ces deux lieux. Là, je laisse aux autres de s'interpréter ça, parce que moi, je ne sais pas. Ce qui est inaccessible, ce qui est encore inaccessible, c'est la même chose. À la fois cet organe, enfin l'intérieur de cet organe et l'arrière-fond. Mais c'est vrai que c'est très juste. Bien sûr, il y a un lien. Un lien.
C'est un point obscur.
Mais je pense que si j'avais passé le sexe féminin à cette époque-là, enfin, il n'y aurait pas eu d'arrière-fond, bien entendu. C'est un mur où je ne l'ai pas passé à cette époque-là que cet arrière-fond s'est formé en compensation de... Vous passez le couloir et vous... Si vous passez le couloir, vous tombez sur rien.
Vous constatez qu'au fond, de l'arrière-fond, il y a encore un fond.
Il y a encore un fond, oui. Peut-être encore à nouveau le sexe féminin. Parce que je ne sais pas à l'époque ce qu'on fait avec le sexe mâle. Je ne sais pas. Je suis sans doute très retardé, mais à l'époque, c'était assez difficile de savoir. Et donc, je ne sais pas. Je ne sais pas par où les gens font l'amour, je ne sais pas. Par où les gens de même sexe font l'amour, je ne sais pas. À l'époque.
Arrière-fond, le livre de Pierre Guyotat est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Thomas Coudreuse, Anne Franquini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.